Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Mercredi, je vous dis pas, et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma. Il est en compagnie de Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour.
On commence ces projections avec Les Mignons.
Ah oui, Les Mignons, qui ne connaît pas Les Mignons maintenant? Le film réalisé par Pierre Coffin, qui avait réalisé d'ailleurs Moi, Moche et Méchant, le 1 et le 2. On le retrouve à la tête de ce film avec les voix de Marion Cotillard et de Guillaume Canet dans le couple de méchants Scarlett et Herb Overkill, ainsi que Pierre Coffin, le réalisateur qui double lui-même ses mignons, fait tous les mignons. Et on va en savoir plus justement sur ces mignons, parce qu'on les avait découverts avec Gru. Hein, c'était leur petit compagnon.
Dans Moi, Moche et Méchant.
Voilà, mais d'où ils viennent en vérité, ces mignons? C'est des petits organismes monocellulaires à la base, de couleur jaune, et ils ont évolué au fil du temps, au cours des âges, au service. Leur vie, c'est d'être au service des méchants. Voilà, c'est ça. Rien de plus important pour eux que d'être au service des méchants, les plus méchants les uns que les autres. Le tyrannosaure, par exemple, un des premiers méchants de l'histoire de la planète. Ensuite, il y a eu Gengis Khan, Napoléon, tout ça. Mais le problème, c'est que ils les servent, mais ils font tellement de bêtises que, au bout d'un moment, ils
les desservent plutôt.
Voilà, ils font disparaître un peu leur maître plutôt qu'autre chose. Hein, les tyrannosaures, la fin des dinosaures, hein, en gros, c'était à cause d'eux. La chute de Napoléon, enfin tout. Voilà, c'est eux qu'on fait tout ça. Et puis, au bout d'un moment, ils sont tombés dans ce qu'on peut appeler une petite dépression, hein, parce qu'ils se disent, attends, nous, on est là pour servir les méchants. Ils meurent tous les uns après les autres. Donc, est-ce que c'est pas de notre faute? Alors, ils s'en vont en Antarctique. Voilà, là au moins ils sont sûrs de trouver personne, pas de méchants, rien du tout. Ils sont tous là-bas, ils sont en dépression, sauf que au bout d'un moment,
ils en ont marre.
Ça leur manque un peu de servir les méchants. Alors, il y a Kevin, il a une idée, il est parti avec Stuart et Bob, tous les trois, ils sont partis pour essayer de trouver un méchant, le plus méchant des méchants qui voudrait bien d'eux. Et alors ils sont partis de l'Antarctique jusqu'à New York. Ils arrivent en plein dans les années 60 aux États-Unis et ils découvrent Scarlett Overkill.
Une très 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 méchante.
Très 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 méchante, c'est la plus méchante des méchantes. Et ils arrivent, ils la trouvent dans une convention de méchants.
Oui.
C'est un truc un peu secret avec tous les méchants du monde qui viennent et puis qui se partagent leurs expériences sur leurs armes surtout. Et ils découvrent là Scarlett Overkill qui va les prendre sous son aile et puis les mener un petit peu partout autour de la planète pour essayer de répandre sa méchanceté un peu partout. Voilà, donc on va découvrir cette histoire dans Les Mignons. C'est un film qui a fait plus de 6 millions de dollars de recettes aux États-Unis à la sortie. Hein, c'est un record pour un film d'animation. Et actuellement, là, en ce moment, il est 8e du palmarès des films d'animation. Et au coude à coude avec Vice Versa. Et 8e position, donc c'est pas mal. Il est quand même juste derrière Moi, Moche et Méchant 2, Le Roi Lion, Toy Story, Le Monde de Nemo, tout ça, c'est des gros films. Eh bien, il est 8e et juste derrière, il va continuer encore de monter.
Le mercredi 9 septembre à 18h pour Les Mignons d'Ipan en version originale sous-titrée, Philippe.
Alors là, ça change complètement, puisque c'est un film français réalisé par Jacques Audiard qui a été sélectionné en compétition au Festival de Cannes, le dernier Festival de Cannes, où il a remporté d'ailleurs la Palme d'Or. Et c'est un film français, mais qui ne parle pas vraiment de français ou de la France en général, puisque Dipan, le nom que portent les combattants des Tigres Tamouls, qui étaient des combattants pendant la guerre civile au Sri Lanka. C'est assez recherché. Et ces tigres tamouls, justement, étaient opposés au gouvernement du Sri Lanka. Voilà, il y a eu la guerre civile. Et puis finalement, ces tigres tamouls ont perdu. Et donc, à la fin de cette guerre civile, justement, c'est Dipan, justement, ce combattant tigre tamoul, qui a décidé de fuir. Voilà, il est parti. Il emmène avec lui une femme et une petite fille qu'il ne connaît pas. Ils ont pris un peu la fuite tous les trois. Et ils espèrent tous les trois obtenir un peu plus facilement justement l'asile politique en Europe, puisque tout seul, il ne serait pas arrivé là. Et, il dit qu'il fait semblant, il fait passer cette femme pour sa femme justement, et puis cette petite fille pour sa fille, alors que même les deux filles ne se connaissent pas. Hein, c'est même pas sa mère et la fille, c'est deux personnes complètement qui ne connaît pas, qu'il a pris avec lui. Et ils sont arrivés à Paris, cette famille entre parenthèses, qui vivote un peu d'un foyer d'accueil à un autre. parce qu'ils sont donc réfugiés politiques, jusqu'à ce que Dipan obtienne un emploi dans un gardien d'immeuble en banlieue, une banlieue un peu difficile en plus. Et bah, lui espère quelque part bâtir un peu sa nouvelle vie et puis construire, essayer de construire peut-être un foyer avec sa fausse femme et sa fausse fille. Mais pourquoi pas, ça peut peut-être marcher. Le problème, c'est que dans cette banlieue, c'est assez dur, c'est assez violent. Et puis, cette violence quotidienne dans la cité va faire ressurgir un peu des blessures de Dipan qui sont encore ouvertes de la guerre qui s'est terminée il y a pas très longtemps, il y a un peu moins de 10 ans. Et donc, parce qu'à la base, c'était un soldat quand même. Donc, lui va, au fur et à mesure, renouer un peu avec ses instincts guerriers et puis essayer de protéger sa fausse famille qui veut voir devenir peut-être sa vraie famille. Voilà.
Dipan en version originale sous-titrée ce mercredi à 21h ou bien le jeudi 10 septembre à 18h, le samedi 12 septembre à 21h et le lundi 14 septembre à 18h au cinéma. Il est Les Nuits Blanches du Facteur en version originale sous-titrée Philippe.
Et là, après le Sri Lanka, on part en Russie. Alors, c'est pas le même climat et puis c'est pas le même film puisque c'est un film donc russe réalisé par Andrei Kontchasovsky. Un film qui a d'ailleurs reçu le Lion d'argent du meilleur réalisateur au festival du film de Venise l'année dernière. Et donc ça se passe dans un petit village autour du lac Kenozero, un village reculé qui est dans une région de la Russie qui s'appelle l'oblast d'Arkhangelsk. C'est une grande région qui est un peu plus petite que la France quand même, hein, parce que la Russie c'est très très grand, et là rien que la région est presque aussi grande que la France, mais il y a quand même 2 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire que c'est pas beaucoup, c'est que des petits villages partout, c'est tout au nord de la Russie, à côté de la Finlande, et ça se passe dans un parc national russe de l'Arctique. Alors autant dire que vous allez avoir des beaux paysages, hein. Il y a beaucoup de lacs, c'est pas mal de forêts aussi, un peu comme la toundra en fait, voilà. Donc il y a pas mal d'arbres et de végétation. Et dans ce petit village, les habitants ont un mode de vie proche de celui de leurs ancêtres et de ceux qui étaient là avant. Ça dure depuis des décennies. Comme ça, ils sont un peu coupés du monde. C'est des petites cabanes en bois. Enfin, voilà, ils vivotent dans leur truc. Il n'y a pas beaucoup d'électricité. Parce qu'ils sont vraiment coupés du monde. Il y a quoi, 5-6 maisons dans leur petit village. Ils sont au bord d'un lac. Ils sont loin de tout. Et, eh bien, il y a une personne qui les relie un peu à la civilisation. Monde. C'est le facteur. Eh oui, parce que le facteur, il a son petit bateau. Et puis, il vient avec son petit bateau dans ce petit village, au bord de l'eau, au bord du lac, pour apporter le courrier, forcément. Alors, c'est un peu le lien qui fait... Le lien avec ce monde extérieur et la civilisation. Il s'appelle Alexei, le facteur. Le problème, c'est qu'un jour, il va se faire voler son moteur de son bateau et que la femme qu'il aime va partir pour la ville. Alors du coup, le facteur va décider d'essayer de tenter une nouvelle aventure et de changer de vie. Voilà. Et donc, laisser peut-être ses habitants sans facteur. Parce que lui, il dit que... voilà, le téléphone, Internet, tout ça, ça arrive, ça commence à arriver à ce village. Et puis, il se dit qu'il va plus avoir de boulot, ça sert à rien parce que voilà, Internet va arriver. Et puis, ça, c'est tellement plus facile d'envoyer des mails et des trucs comme ça que lui, il aura plus de boulot, il aura pas besoin de venir ici. Donc, voilà, c'est une petite réflexion comme ça sur les gens qui sont un peu coupés du monde, les petites communautés qui sont reliées comme ça par le facteur qui veut justement essayer de changer de vie.
Les Nuits Blanches du Facteur en version originale sous-titrée cette semaine au cinéma est le jeudi 10 septembre à 21h ou bien le mardi 15 septembre à 18h. La femme au tableau en version originale sous-titrée Philippe.
Un film dramatique anglais et américain réalisé par Simon Curtis. Un film qui parle d'un tableau, hein, puisque c'est la femme au tableau. Et ce tableau est dans un musée, le plus grand musée autrichien. Et le tableau, en fait, c'est un peu la Joconde autrichienne. C'est le tableau le plus connu de l'Autriche qui est exposé là depuis des années. Le problème, c'est que Maria Altman, c'est une septuagénaire un peu excentrique, elle affirme que ce tableau, il est dans sa famille et elle veut le récupérer. Voilà. Alors comment faire ? Elle va embaucher un avocat, un jeune avocat de Los Angeles qui va découvrir un peu cette histoire, qui est loin de se douter de ce qui l'attend, puisque pour lui... cette petite mamie un peu excentrique, va se révéler, son histoire va se révéler vraie. Et donc, il va se laisser convaincre par cette petite vieille dame pour essayer de la représenter devant le gouvernement autrichien, pour essayer de récupérer ce tableau qui est dans sa famille depuis avant la guerre, puisque en fait c'est avec l'invasion nazie qui ont récupéré tous les tableaux, qui donc ensuite elle est partie, elle a fui aux États-Unis pendant des années, et puis au bout d'un moment, elle se rend compte que ce tableau a été gardé par le gouvernement autrichien, parce qu'il savait peut-être pas non plus à qui il était, et donc va essayer de prendre une revanche sur l'histoire et de récupérer ce tableau dans sa famille.
La femme au tableau, en version originale sous-titrée, le vendredi 11 septembre à 18h au cinéma LA, ça n'a rien à voir. C'est Mission Impossible Rogue Nation, Philippe.
Ah oui, là, il y a plein d'actions, plein de comédies aussi. C'est un très bon film, hein, Mission Impossible Rogue Nation, le cinquième opus de la saga Mission Impossible, réalisé par Christophe McQuarrie, avec Tom Cruise toujours, qui fait toutes ses cascades lui-même depuis 1996, Simon Pegg aussi, Jeremy Renner, ils sont tous là, l'équipe de la force Mission Impossible, voilà, qui va se retrouver dissoute, et puis Ethan Hunt eh bien, va se retrouver tout seul, l'agent Ethan Hunt, Tom Cruise, donc, va se retrouver tout seul, isolé, va donc devoir affronter quand même un réseau d'agents particulièrement entraînés. C'est le syndicat qui, c'est un peu lui aussi qui a poussé à dissoudre la force Mission Impossible, puisque ils ont fait, y a les résultats sont là, mais ouais, il y a beaucoup trop de casse par rapport aux résultats, donc le gouvernement a décidé de dissoudre cette force, mais peut-être que le syndicat est un peu derrière tout ça aussi. Enfin voilà, il y a toujours des complots, des trucs comme ça, et donc là ils vont devoir affronter ce syndicat. Alors Ethan Hunt va devoir retrouver ses collègues agents spéciaux. Et il va devoir faire une petite alliance secrètement, voilà, agir dans l'ombre pour essayer de s'attaquer à la plus impossible des missions, c'est-à-dire éliminer le syndicat.
Mission Impossible, ah. Rogue Nation, à découvrir ou à redécouvrir ce vendredi 11 septembre à 21h au cinéma LA. Un film d'animation maintenant pour la suite, c'est Vice Versa, Philippe.
Ouais, c'est le 15e film de Pixar qui arrive, réalisé par Pete Docter, qui avait réalisé Monstres et compagnie, ou encore Là-haut. Hein. Et on retrouve dans ce film les voix, puisque c'est un film d'animation, donc on n'a que les voix. C'est les voix de Charlotte Lebon, Gilles Lelouch, Mélanie Laurent, Pierre Ninet, Marie-Lou Berry, enfin voilà, plein de gens connus. Et ça se passe aux États-Unis, hein, à San Francisco, plus précisément. Et nous allons suivre l'histoire de la jeune Riley, voilà, qui commence à passer à l'adolescence. Mais Riley, on ne va pas vraiment la suivre, elle, on va suivre plutôt ce qu'il y a à l'intérieur de sa tête. Eh oui, puisque c'est les émotions qui nous guident. Des fois on est en colère, des fois on est joyeux, des fois on est triste. Eh bien, c'est ces émotions en fait qu'on va suivre dans ce film d'animation. Riley, pour en savoir plus un peu sur son histoire, elle est partie du Midwest pour s'installer à San Francisco à cause du travail de son père. Elle va essayer de s'habituer à cette nouvelle vie. Elle a pu ses copains. Enfin voilà, ça c'est une nouvelle vie pour elle. Elle part un peu de la campagne pour aller vraiment dans la ville, donc ça le change du tout au tout. Et alors ces cinq émotions, c'est la joie, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse, voilà. Et pour faire comprendre un peu comment marchent les émotions, ils ont représenté ces émotions par des petits personnages qui sont à l'intérieur de la tête de Riley, enfin de tout le monde d'ailleurs, mais on voit surtout celle de Riley. Et ces émotions, c'est ces émotions là qui la conseillent dans la vie de tous les jours, qui font ce qu'elle fait et ce qu'elle est maintenant. Ça se passe dans sa tête, le quartier cérébral, le centre de contrôle de son esprit. Et y a des souvenirs aussi, puisque tous les souvenirs qu'on se crée sont représentés dans ce film par des petites boules de couleurs, selon les émotions, si des souvenirs joyeux, des souvenirs tristes. Tout ça est rangé dans la tête quelque part, et puis ces cinq petits personnages n'hésite pas à les ressortir pour faire ressentir à Riley des émotions, des trucs comme ça. Et eh bien un jour, il y a tristesse et joie qui vont se disputer un souvenir, justement. Ils ne savent pas trop si ce souvenir est joyeux ou triste, et elles vont un peu se le disputer. Et par accident, ce souvenir va être expulsé du quartier cérébral et va donc être en quelque sorte oublié par Riley, hein, puisque tout est rangé dans le quartier cérébral, les souvenirs les plus importants, et il y a une espèce de sorte de remise, d'entrepôt de souvenirs, où tous les souvenirs les moins importants sont rangés et sont détruits au fur et à mesure, au bout d'un petit moment, si c'est des souvenirs qui ne sont pas très importants. Et là, celui-là était très important, et par accident, il a été expulsé du quartier cérébral. Alors, tristesse et joie sont partis toutes les deux, essayer de le rechercher, en laissant aux commandes des émotions de Riley, dégoût, colère et peur. Alors, voilà,
ça va être un bazar sans nom.
Ça va être un bazar sans nom. Le peur est toujours pessimiste. Dégoût, elle est un peu rebelle. Et puis, colère, il se met en colère pour un rien. C'est cette histoire qu'on va découvrir. Ça traduit un petit peu le moment du passage à l'adolescence, surtout, hein, parce qu'on se rend compte que les émotions se battent et puis on ne sait pas trop ce qu'on doit ressentir. Et c'est cette personnalité qui se construit au fur et à mesure des expériences et puis surtout en fonction des souvenirs qu'on garde justement et qu'on classe sans le savoir dans la catégorie des souvenirs joyeux ou tristes. Donc c'est un petit film pas mal à découvrir qui en fait un peu savoir plus, surtout aux enfants, sur comment un peu marchent les émotions et puis ce qu'on doit ressentir ou ce qu'on ne doit pas ressentir.
Vice-versa, le samedi 12 septembre à 18h au cinéma LA, après la jeunesse, la vieillesse avec Floride, Philippe.
Oui, du coup, on retrouve Jean Rochefort qui a 80 ans passé dans ce film, il s'appelle Claude Lhermenier. Et puis, il perd un peu la boule. Hein. Donc, c'est un film réalisé par Philippe Leguet qui a été adapté d'une pièce de théâtre de Florian Zeller qui s'appelle Le Père. Et alors, pourquoi il perd la boule? C'est qu'il commence à être vieux un petit peu, le Claude Lhermenier. Et il va partir sur un coup de tête pour Miami, retrouver sa fille qui est là-bas, qui s'est installée aux États-Unis. Le problème, c'est qu'il a une autre fille qui est un peu tout le temps avec lui parce que elle a peur que, comme il perd un peu la boule, elle a peur de le retrouver n'importe où et de ne plus savoir ce qu'il fait.
On peut dire que c'est son aide-soignante.
Voilà, c'est un peu, elle l'aide toute la journée.
Dans son quotidien.
Elle est toujours avec lui parce qu'elle a peur qu'il se passe quelque chose. Comme lui, il perd la boule. Sauf que le problème, c'est que lui, il joue un peu de ça. Des fois, il fait semblant de perdre la boule. Et puis, il s'amuse avec ça. Sauf que ça fait pas trop rire sa fille, forcément. Hein, imaginez le truc. Et puis, le problème, c'est que des fois, il est vraiment perdu. Il confond les visages, les lieux. Il confond même les âges de sa vie, parce que des fois, il a l'impression qu'il est tout jeune, il fait des trucs complètement débiles. Et puis, sa fille commence à avoir peur un peu, et ça laisse la place à la détresse de tous ses proches. Et puis donc, il va partir pour Miami, et c'est ce qu'on va découvrir dans ce film.
Floride, le dimanche 13 septembre à 21h au cinéma LA. La belle saison, Philippe.
Et là, on remonte dans le temps, un petit peu. On remonte aux années 70.
Pour le féminisme.
Ouais, en pleine révolution féminisme. Avec Cécile de France et Isia Higelin dans les deux rôles principaux, c'est Carole et Delphine. Elles ne se connaissent pas au début du film. Hein. Carole est en couple avec Manuel, ils sont à Paris, ils vivent activement les débuts du féminisme, ils sont en plein dedans, il commence à y avoir tout plein de manifestations, plein de trucs, ça commence à bouger un peu. Et puis Delphine, c'est une fille de la campagne qui va monter à Paris pour ce qu'on faisait et ce qu'on continue à faire aussi aujourd'hui, c'est de monter à Paris pour essayer de trouver du travail, gagner son indépendance. Et ces deux femmes vont se rencontrer et vont vivre alors une histoire d'amour qui va justement se heurter à la réalité, parce que ce sera ces deux filles qui s'aiment donc, et qui arrivent là en pleine révolution féminisme. C'est l'exemple parfait. Hein, et donc, on va découvrir cette histoire dans ce film. Les critiques ont adoré ce film. Hein, donc, n'hésitez pas à aller voir La Belle Saison.
Au cinéma, il est le lundi 14 septembre dès 21h. En quête de sens, Philippe.
C'est un documentaire réalisé par Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière. Nathanaël Coste, on le retrouvera d'ailleurs en interview vendredi, dans Je vous dis pas, après-demain, donc, pour en savoir plus sur son film, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est en quelque sorte, je ne vais pas pouvoir tout expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce film, c'est en quelque sorte un road movie. On va suivre ces deux personnes, ils sont amis depuis qu'ils sont jeunes, et ils sont partis faire un espèce de documentaire autour du monde pour essayer de trouver une quête au sens de la vie, ce qui se passe dans la vie. Alors, ça mélange l'environnement, le voyage, l'économie, la politique, enfin ça mélange un peu tout, et ça va voir un peu ailleurs comment ça se passe, ce qui se fait. Donc il y a un grand voyage, c'est pour essayer de donner espoir aussi aux générations futures qui sont un peu en perte de repères et qui se disent finalement qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on fait. Il y a plein de choses, ils sont partis autour du monde, ils ont interviewé pas mal de personnes, il y a un biologiste cellulaire, il y a un jardinier urbain, un chaman, une présidente d'une ONG, tout ce petit monde est interviewé dans ce film avec quelques exemples qui sont filmés autour du monde. Et c'est pour partager un peu leur vision du monde. C'est un documentaire qui a été coproduit grâce à une campagne de financement participatif. Mais ça, Nathanaël Coste en parlera vendredi plus en détail dans l'interview. À écouter vendredi à 12h15 et 19h15 avec Nathanaël Coste qui va nous parler de tout ce film, comment ça va se passer, comment ça s'est passé, voilà, puisque c'est un documentaire qui parle de plein de choses.
En quête de sens, le mardi 15 septembre à 21h au Cinéma Élé. Et on va finir ces projections avec le Ciné Club en partenariat avec l'association Oya Film au Cinéma Élé. C'est Cinéma Paradiso, Philippe.
C'est un film italien qui est sorti en 1989, qui a été réalisé par Giuseppe Tornatore avec Philippe Noiret, avec Jacques Perrin dans ce film. C'est l'histoire de Salvatore. Il est cinéaste, très en vogue, hein, il est très connu. Ça se passe à la fin des années 80. Et lui, il est à Rome depuis une trentaine d'années, il vit là-bas. Et il est originaire d'un petit village en Sicile. Il n'est plus jamais revenu d'ailleurs depuis 30 ans, parce que lui, maintenant, il est devenu célèbre, il est parti à Rome, enfin voilà, il fait plein de choses. Et un soir, il rentre chez lui et il va recevoir un appel de sa mère qui lui annonce la mort d'un certain Alfredo. Et Alfredo, eh bien, c'est avec lui qu'il a passé toute son enfance, en fait. Déjà, quand il était jeune, c'était un monsieur assez vieux. Pendant la nuit, justement, où sa mère l'appelle, il va avoir le souvenir d'Alfredo. Il va se remémorer toute sa jeunesse, 40 ans en arrière. Ça va le replonger dans son enfance, son petit village, et puis toutes les personnes qui étaient dans ce petit village. Et donc là, on se retrouve dans le film 40 ans en arrière, où on découvre le Salvatore plus jeune, on le surnommait Toto, un petit enfant qui était assez pauvre, il vivait avec sa sœur et sa mère, ils attendaient leur père qui était parti combattre en Russie, finalement qui reviendra peut-être jamais. Il était enfant de cœur dans une église et cet Alfredo qui est mort, il était à la fois curé et gérant d'une salle de cinéma paroissiale qui s'appelait justement le Cinéma Paradiso. Et puis comme il était curé en même temps, il faisait un peu de censure sur les films qui passaient. Donc toutes les scènes qui étaient jugées impudiques, avec juste un petit bisou ou alors un corps assez dénudé, lui, il coupait la bande directement. Et c'était justement à Salvatore de le faire. Voilà, il avait formé ce petit garçon à couper les bandes, à les recoller. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme le numérique. Il fallait découper toutes les bandes, les recoller avec des petits trucs. Et puis, il lui avait appris à faire ça. Et Toto était fasciné justement par ce septième art. Et puis, il essayait d'assister en cachette à des petites projections privées qu'Alfredo faisait. Et puis, il passait toute son enfance quasiment dans la petite cabine de projection de ce cinéma. Sa mère ne voulait pas trop, justement. Il restait à fréquenter cet Alfredo et dans cette salle de cinéma. Et du coup, Alfredo va lui enseigner un peu toutes les ficelles du métier. Et c'est vraiment grâce à lui qu'il est devenu ce qui est grand cinéaste, qu'il est devenu maintenant. Donc c'est toute l'enfance de Salvatore qu'on va découvrir, son enfance avec Alfredo, donc qui est malheureusement mort du coup au début du film.
Premier rendez-vous du Ciné-Club en partenariat avec l'association Oya Film au Cinéma Élé, c'est ce dimanche 13 septembre à 18h avec Cinéma Paradiso. Philippe, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir ?
On se retrouve tous au cinéma.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas avec deux sujets à découvrir, direction Saint-Christophe du Ligneron pour l'animation Vélocéane. Et juste avant, on retrouvera Annie Grosard, la présidente des donneurs de sang sur Île-Dieu, pour nous présenter la journée don du sang sur Île-Dieu qui aura lieu le vendredi 18 septembre à partir de 11h. À demain, au revoir.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale. Retrouvez toutes les émissions sur neptunefm.com. We'll be right back.